Chers frères et sœurs et chers amis, nous continuons la deuxième série concernant l'importance de la rédemption. Aujourd'hui, l'étude numéro 42, le titre sera « La maladie ». La maladie est un des faits divers de l'existence. Pour maintenir nos corps dans un état qui glorifie Dieu, nous devons d'abord savoir quelle attitude prendre en face de la maladie, comment en tirer parti et comment en guérir. La maladie est un phénomène tellement courant qu'il nous manquera toujours quelque chose si nous ne savons pas comment nous en comporter à son égard. La Bible révèle qu'il y a une relation étroite entre la maladie et le péché. La dernière conséquence du péché, c'est la mort. La maladie occupe une place intermédiaire entre le péché et la mort. S'il n'y avait pas de péché dans le monde, il n'y aurait ni maladie ni mort. Si Adam n'avait pas péché, la maladie n'aurait pas fait son apparition sur la terre. De cela, nous pouvons être parfaitement certains. Il en est de la maladie comme de tout autre malheur. C'est le péché qui lui a ouvert la porte, tels que la pollution, les produits chimiques dans la terre et les aliments. Tout cela, c'est le péché. L'être humain est fait de deux natures, la nature incorporelle et la nature corporelle. Elles ont souffert toutes les deux de la chute. L'esprit et l'âme ont été endommagés par le péché et le corps a été envahi par la maladie. Le péché de l'esprit et de l'âme, ainsi que la maladie, attestent ensemble que l'homme est voué à la mort. Quand le Seigneur Jésus est venu comme sauveur, il n'a pas seulement pardonné le péché de l'homme, il a aussi guéri son corps. Il l'a sauvé physiquement aussi bien que son âme et son esprit. Jésus-Christ est devenu quelqu'un qui a voulu s'offrir totalement pour toi, mon cher ami, comme pour moi. Jésus-Christ devint donc sur la croix, il est devenu sur la croix, une propitiation pour nos péchés. Ses mains étaient toujours prêtes et toujours, pas seulement prêtes à toucher les malades et surtout à les relever, à en juger par ce qu'il a fait lui-même et par le commandement qu'il a donné à ses disciples, nous ne pouvons pas échapper à la conclusion que le salut qu'il apportait comportait la guérison et la maladie. Son évangile est un évangile de pardon et de guérison. Les deux choses vont ensemble. Le Seigneur Jésus sauve les hommes de leurs péchés et de leurs maladies afin qu'ils connaissent l'amour du Père. En lisant les évangiles, les actes des apôtres, les épîtres ou l'Ancien Testament, nous sommes continuellement témoins du parallélisme qu'il y a entre pardon et guérison. Nous savons qu'Ésaïe 52:3 est le chapitre de l'Ancien Testament dans lequel l'Évangile ressort le plus clairement. Le Nouveau Testament fait différentes allusions à ce chapitre particulier quand il est question de l'accomplissement des prophéties annonçant l'œuvre rédemptrice du Seigneur Jésus. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe 53, verset 5. Ce verset, il nous déclare, en des termes d'une clarté qui ne laisse rien à désirer, que la guérison du corps et la paix de l'âme nous sont accordées aussi bien l'une et l'autre. La chose ressort avec beaucoup plus d'évidence encore quand nous examinons l'emploi qui est fait deux fois du verbe « porter ». Au verset 12, « Il a porté les péchés de beaucoup d'hommes » et au verset 4, « Ce sont nos souffrances qu'il a portées » en hébreu, ça veut dire « nos maladies ». Le Seigneur Jésus porte nos péchés et nous n'avons pas besoin de les porter à nouveau. De même, puisqu'il a porté nos maladies, nous n'avons pas non plus besoin de les porter. Donc, dans certains pays où on fait des fêtes et l'on porte la croix de Jésus et on se flagelle jusqu'au sang, tout cela n'est pas du tout dans l'intention que notre Père Céleste a voulu, ni son Fils bien-aimé. Le péché a fait du mal à notre corps comme à notre âme, aussi le Seigneur les a sauvés, nous a sauvés de cela entièrement. Il nous sauve de nos maladies, aussi bien que de nos péchés. Les croyants, d'aujourd'hui surtout, peuvent faire monter à Dieu exactement la même louange que David avait prononcée et chantée. Mon âme bénit l'Éternel, et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Car c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Alléluia. Psaume 103, versets 1 et 3. Quelle honte que tant de chrétiens ne puissent offrir à Dieu que la moitié d'une louange, parce qu'ils ne connaissent que la moitié d'un salut. C'est une perte pour Dieu autant que pour l'homme. Le salut de Dieu ne serait pas complet, remarquons-le, si le Seigneur Jésus se bornait simplement à pardonner nos péchés et ne guérissait pas aussi nos maladies. Comment pourrait-il sauver nos âmes et laisser nos corps dans les tourments de leur infirmité? N'a-t-il pas traité clairement les deux choses quand il était sur la terre? Quelquefois, il commençait par pardonner tout d'abord. Ensuite, il guérissait. D'autres fois, c'était l'inverse. Il agit selon ce que l'homme est capable de recevoir. En feuilletant les évangiles, on constate que de toutes les œuvres que le Seigneur a accomplies, ce sont les guérisons qui sont les plus nombreuses, parce que, à cette époque, les Juifs semblaient avoir plus de peine à croire au pardon que le Seigneur accordait à tous que aux guérisons qu'il s'accomplissait. Donc, notez Saint Matthieu, chapitre 9, verset 5. Pour les chrétiens d'aujourd'hui, c'est le contraire. Voyez-vous, aujourd'hui, les chrétiens croient à sa capacité de pardonner, mais il doute très fort de la grâce de la guérison. Il confesse que le Seigneur Jésus est venu pour sauver les hommes du péché, mais ils ignorent le fait qu'il est également le Sauveur qui guérit. L'incrédulité humaine partage ce Sauveur en deux, bien que la vérité demeure que Christ est à toujours pour l'homme le Sauveur du corps et le Sauveur de l'âme. Aussi compétent, oui, le Sauveur, notre Sauveur, est aussi compétent pour guérir que pour pardonner, n'oubliez jamais cela. Dans la pensée du Seigneur, en effet, il ne suffit pas qu'un homme soit pardonné, il faut qu'il soit aussi guéri. Aussi le voyons-nous donner cet ordre après avoir déclaré au paralytique « Homme, tes péchés te sont pardonnés. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Saint Luc, chapitre 5, verset 24. Et vous pouvez noter aussi le verset 20 que j'allais oublier. Donc, Luc 5, verset 20 et le verset 24. En ce qui concerne la relation entre le péché et la maladie, la conception qu'en a le Seigneur est à l'opposé de la nôtre. Oui, notre idée à nous, c'est que le péché appartient au domaine spirituel, qu'il est désagréable à Dieu et condamné par lui. Tandis que la maladie n'est qu'un phénomène de ce monde qui n'a rien à voir avec le Seigneur. Il faut noter d'autre part que pour le Seigneur Jésus, les péchés de l'âme et les infirmités du corps sont les uns comme les autres, les œuvres de Satan. Or Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Premier épître de Johannes, de Saint Jean, chapitre 3, verset 8. Ayant vu maintenant quelque chose de la pensée du Seigneur, touchant la maladie en général, nous portons maintenant notre attention sur les causes de la maladie quand elle affecte les chrétiens. La Bible dit, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. 1 Corinthiens, chapitre 11, versets 30 à 32. Saint Paul explique ici que la maladie est une des formes que prend le châtiment du Seigneur, parce qu'ils se sont égarés dans leur marche devant le Seigneur. Les chrétiens sont châtiés par la maladie pour être amenés à se juger eux-mêmes et à abandonner leurs erreurs. En châtiant ses enfants, Dieu use de grâce envers eux pour qu'ils ne soient pas condamnés avec le monde. Voyez-vous, si les chrétiens se repentent de leurs fautes, si je me repens de mes fautes, Dieu ne les châtiera plus, Dieu ne me châtiera plus. Si je reconnais que j'ai fauté et que surtout que je demande humblement pardon. Ne pouvons-nous donc pas éviter la maladie en nous jugeant nous-mêmes? Il n'est pas défendu d'essayer. Nous avons souvent cette idée que la maladie est un problème physique qui n'a aucun rapport avec la justice, la sainteté et le jugement de Dieu. Mais l'apôtre nous dit très clairement dans le passage cité que la maladie est un effet du péché et un châtiment de Dieu. Dans le même ordre d'idées, certains chrétiens affirment que la maladie n'est pas un châtiment de Dieu pour le péché, et ils se plaisent, pour étayer leur vue, à citer l'histoire de l'aveugle-né dans Saint Jean, chapitre 9. Mais le Seigneur Jésus n'a pas dit, il n'a pas dit dans ce cas particulier, qu'il n'y avait pas de relation entre le péché et la maladie. Il a simplement averti ses disciples de ne pas condamner indistinctement toutes les personnes malades. Ne mettons pas tout le monde dans le même sac. En outre, cet homme-là, il était né aveugle. Il y a donc une grande différence de nature entre sa maladie et la maladie d'un chrétien. Les infirmités de naissance ne sont pas dues au péché de l'infirme, il n'y peut rien. Mais selon les Saintes Écritures, les maladies qui font leur apparition après que la personne a cru au Seigneur sont en général en relation avec le péché. Bien sûr, ça c'est un fait. Et c'est pourquoi confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Saint Jacques, chapitre 5, verset 16. Les péchés doivent donc d'abord être confessés. La guérison suivra. Le péché, c'est la racine de la maladie. Si vous avez eu un père, comme cela a été mon cas, qui a pratiqué des choses défendues selon la sainte parole de Dieu, vous pouvez être sous la condamnation de Dieu d'une façon innocente, vous êtes innocent, mais vous écopez certaines choses de votre père. Nous devons cependant nous garder de conclure que celui qui est malade est nécessairement beaucoup plus pécheur que tous les autres. Saint Luc chapitre 13, verset 2. Bien au contraire, ceux qui sont châtiés, punis en quelque sorte, par le Seigneur, sont habituellement beaucoup plus sanctifiés que les autres. Par exemple, Job n'est-il pas un digne exemple ? Chaque fois qu'un chrétien est châtié par Dieu et tombe malade, il peut s'attendre à une grande bénédiction, car le Père des esprits nous discipline pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Hébreux, chapitre 12, verset 10. La maladie nous incite à faire appel à notre mémoire pour examiner s'il n'existerait pas une faute restée cachée. C'est une attitude obstinée ou une volonté personnelle qui peut être la faute, dans laquelle il y a bien sûr des affaires qui sont restées en suspens. Il faut donc se placer résolument dans la pleine lumière de Dieu pour nous examiner, et cela dans le sincère désir d'apprendre si nous sommes châtiés pour un manque quelconque, nous avons peut-être manqué à quelque part. Il faut se juger soi-même, n'ayons pas peur de le faire. De cette façon, le Saint-Esprit nous montrera où nous avons manqué. Et quoi que ce soit qu'il nous signale, nous devons immédiatement confesser la faute et rejeter le mal. Si ce péché a fait du tort à des tiers, nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour le réparer. Tout cela en croyant que Dieu nous a agréés dans ce retour sur nous-mêmes. Enfin, il sera indiqué que nous nous offrions à Dieu tout à nouveau et être prêts à obéir désormais pleinement à sa volonté. Ce que le chrétien a besoin de comprendre aujourd'hui, c'est que Dieu le met sous discipline, et cela dans un but bien défini. Il importe en conséquence de toujours permettre au Saint-Esprit de mettre à découvert ce que est vraiment le péché, afin que le but de Dieu soit atteint et que le châtiment ne soit plus nécessaire. Alors, Dieu guérira. Une fois que le chrétien a confessé et abandonné son péché et que, au surplus, il a cru au pardon, il peut se fier à la promesse de Dieu et prévoir sans aucune crainte qu'il le rétablira. Avec une conscience libre d'accusation, il a de l'assurance pour s'approcher de Dieu et recevoir sa grâce. C'est quand nous laissons une très grande distance entre nous et lui que nous trouvons difficile de croire ou que nous n'osons pas nous y risquer. Mais une fois le péché abandonné et pardonné, tout cela grâce à l'illumination du Saint-Esprit et l'obéissance à ses injonctions, alors nous avons un libre accès auprès de Dieu. La cause de la maladie ayant été supprimée, la maladie elle-même sera enlevée. Le croyant malade n'a plus désormais aucune difficulté à croire que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, c'est-à-dire sur Christ, et que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. À ce moment, la présence du Seigneur sera abondamment, grandement manifestée. Je répète, à ce moment, la présence du Seigneur, elle sera vraiment, énormément, merveilleusement manifestée, et sa vie va pénétrer le corps du malade pour le faire revivre. Il est un fait, en effet, que Dieu se sert de la maladie pour nous aider à discerner nos manquements. Si nous ne sommes pas sourds à la voix de la conscience, le Saint-Esprit nous montrera certainement la raison de la mesure disciplinaire qui nous a frappés. Dieu trouve son plaisir à pardonner nos péchés et à guérir nos maladies. La grande œuvre rédemptrice du Seigneur Jésus, elle comprend à la fois le pardon et la guérison. Il ne permet pas qu'il y ait quoi que ce soit entre nous et lui. Il désire, le Seigneur, que nous vivons par lui comme jamais auparavant. Et c'est maintenant l'heure de la confiance et de l'obéissance sans réserve. Le Père Céleste n'a aucun désir de nous châtier inutilement. Il est disposé à nous guérir. Pourquoi cela? C'est afin que la contemplation de son amour et de sa puissance nous incite à une communion beaucoup plus étroite avec lui. Ce que Dieu désire pour les siens dans l'affliction, c'est qu'ils oublient leur maladie. Oui, oublier leur maladie et détourner résolument les regards de ce qui les oppresse pour les fixer sur Dieu. Supposer que ma maladie soit sa volonté, suis-je prêt à l'accepter? Suis-je capable de m'humilier sous la puissante main de Dieu sans plus lui résister? Ou est-ce que je convoite dans la souffrance une santé qu'il n'est pas dans le dessein de Dieu de m'accorder pour le moment? Puis-je attendre que son objectif soit atteint avant de lui demander de me guérir? Si c'est sa volonté d'agir en ma faveur, ou bien est-ce que je vais chercher d'autres moyens de guérir alors qu'il est en train de me châtier? À l'heure de la profonde souffrance, est-ce que je lutte pour obtenir ce que Dieu ne veut pas m'accorder maintenant? Tout croyant malade devrait laisser ces questions se poser profondément à son cœur. Outre le désir personnel et la volonté propre, une chose que Dieu haït dans le cœur du chrétien, c'est bien entendu l'amour de soi, l'amour de moi-même. L'amour de soi est un danger pour la vie spirituelle et il est fatal aux œuvres de l'esprit. Si Dieu ne nous débarrasse pas de cet élément-là, il nous est impossible de faire de rapides progrès dans notre course spirituelle. L'amour de soi est en relation étroite avec notre corps. S'aimer soi-même, c'est chérir notre corps et notre vie. Et c'est pourquoi, pour détruire cet odieux trait de caractère, Dieu permet souvent à la maladie de venir sur nous. À cause de son amour pour lui-même, le chrétien cherche la guérison aussitôt qu'il est malade. Il ne réalise pas qu'il devrait débarrasser son cœur de ses mauvaises actions avant de supplier Dieu de le guérir. Ses yeux sont fixés sur la guérison. Il ne prend pas la peine de se poser certaines questions. Il ne se soucie pas de savoir pourquoi Dieu a-t-il permis cette maladie, de quoi il a à se repentir, ou comment il devrait laisser s'achever l'œuvre de Dieu en lui. Il n'a de yeux que pour sa propre faiblesse. Il est pressé d'être de nouveau vigoureux, ou s'y cherche-t-il par tous les moyens de guérir? Pour hâter les choses, il plaide sa cause devant Dieu et fait appel à une compétence humaine. Et quand un malade chrétien en est là, il est impossible à Dieu de réaliser son dessein en lui. C'est pourquoi certains d'entre eux n'obtiennent qu'une amélioration temporaire et après un certain temps, le mal réapparaît. Comment peut-on espérer une guérison durable quand la racine de la maladie n'a pas été arrachée? Moi qui vous parle, j'ai passé par là. Combien de personnes vigoureuses doivent être amenées aux portes de la mort avant que ne se dissolve cet amour d'elle-même? Que reste-t-il d'autre à aimer quand le corps ne peut plus rien, que notre vie est peut-être compromise et que, en tout cas, la maladie a complètement délabré notre santé? À ce moment-là, on est prêt à accueillir la mort. Tout espoir est perdu, mais aussi tout amour de soi. Parvenu à cette extrémité, le malade se souviendra que Dieu s'est quand même présenté aux hommes par Jésus-Christ comme le Dieu qui guérit, ce serait le comble de la tragédie si à cette heure-là, quand la souffrance lui a enlevé toutes ses ressources, le malade ne faisait pas un retour sur lui-même en plaidant devant Dieu sa promesse de guérison. Chers amis, les chrétiens doivent-ils ou ne doivent-ils pas employer les remèdes ? Le débat est ouvert entre les nombreux argumentateurs. Ils ont l'air de croire que si cette question est résolue, on tient la réponse à toutes les questions. Mais se rend-on vraiment compte que la vie spirituelle ne repose pas sur un principe de permission ou d'interdiction, mais sur les directions que Dieu donne de cas en cas? Donc la question qui se pose pour nous est donc la suivante. Quand un croyant, à cause du souci qu'il a de sa personne, ce qui n'est pas interdit, a recours à la médecine dans son désir de la guérison, est-il conduit par le Saint-Esprit ou sa façon d'agir émane-t-elle exclusivement de lui-même? Dans la question du salut, la nature humaine est ainsi faite que, après avoir traversé de nombreuses circonstances adverses, on n'est guère porté à être sauvé par la foi. On s'efforce habituellement de se sauver par ses œuvres. N'en est-il pas de même de la guérison du corps? La bataille pour la guérison divine est même plus rude parfois que celle qui a pour enjeu le pardon du péché. Les croyants admettent qu'à moins de se confier en Jésus-Christ pour leur salut, ils ne pourront pas entrer au ciel. Mais pourquoi, demandent-ils, devraient-ils dépendre de l'intervention du Seigneur pour leur guérison, quand il y a tant de moyens médicaux disponibles? Notre attention ne doit donc pas se concentrer sur cette question. Peut-on employer des remèdes ou pas? Il est un fait qu'il y a une grande distinction à faire entre la guérison par les remèdes et la guérison par Dieu. La puissance des premiers est naturelle, tandis que la puissance de l'autre est surnaturelle. Si le docteur est un croyant qui demande à Dieu sagesse et bénédiction quant aux remèdes appliqués, il est incapable de procurer une bénédiction spirituelle à celui qu'il soigne. Ce que nous devons absolument éviter, c'est de placer toute notre foi uniquement dans les remèdes au point d'oublier le Seigneur. Si la personne se confie véritablement en Dieu, elle s'en remettra à son amour et à sa puissance. Elle prendra des informations et fera des recherches quant à la cause de sa maladie, en quoi elle a pu déplaire au Seigneur. Ainsi, par sa guérison, elle sera guérie à la fois spirituellement et corporellement. Nous n'allons pas ouvrir une controverse pour établir si, oui ou non, le médicament vient de Dieu. Le point à éclaircir est le suivant. Oui ou non, le Seigneur Jésus a-t-il été donné par Dieu à ses enfants comme le sauveur de leurs maux physiques ? Devons-nous accepter le Seigneur Jésus que Dieu nous a destiné et nous confier en sens saint nom, se fier uniquement aux médicaments ou accepter cette vie du Seigneur Jésus, ça, ce sont deux choses diamétralement opposées. Nous reconnaissons l'efficacité des remèdes et d'autres inventions médicales, mais ces guérisons sont naturelles, il leur manque ce que Dieu a préparé de meilleur pour les siens. Les croyants peuvent demander à Dieu de bénir les remèdes et être guéris. Ils peuvent aussi remercier Dieu d'avoir été guéris par ce moyen et se regarder comme ayant été guéris par Dieu lui-même. Cependant, cette guérison n'est pas la même que l'acceptation de la vie du Seigneur Jésus, car par leur méthode, ils se tirent de peine par le chemin facile et abandonnent le champ de bataille de la foi. Si dans notre bataille contre Satan, la guérison était le seul objectif à atteindre en cas de maladie, alors nous pourrions utiliser n'importe quel moyen de guérison à notre portée. Mais si des objectifs plus importants que la simple guérison doivent être atteints, alors notre devoir n'est-il pas de nous tenir tranquilles devant Dieu et d'attendre sa méthode et son heure? Nous ne voulons pas être dogmatiques et prétendre que Dieu ne bénit jamais les remèdes. Nous savons qu'il les a bénis bien des fois. Il est si bon et tellement généreux. Mais les chrétiens qui se fient uniquement aux remèdes ne se tiennent pas sur le terrain de la rédemption. Ils prennent la même position que les gens du monde. Ils n'ont aucun témoignage à rendre à Dieu dans cette affaire. Il y a donc une observation qui ne soulève certainement aucun doute, c'est que si nous sommes appelés à notre guérison par notre seule dépendance de Dieu, nous en retirerons un profit spirituel qu'une guérison par les remèdes ne pourra jamais nous procurer. Quand la maladie oblige les hommes à se mettre au lit et quand ils se repentent profondément de leur vie passée, mais une fois guéris par les remèdes, certains s'éloignent encore davantage de Dieu, mais ils ne s'exposeraient pas à de telles suites s'ils étaient guéris en s'attendant uniquement à Dieu par la foi en Jésus-Christ. Car s'ils confessent leurs péchés, s'ils renoncent à eux-mêmes, ils se confient en ce moment dans l'amour de Dieu et ils dépendent de sa puissance. Ils acceptent la vie de la sainteté de Dieu et ils établissent avec lui une relation nouvelle qui les attache à lui sans retour. La leçon que Dieu cherche à nous apprendre dans la maladie, c'est de mettre un terme décisif à notre activité propre et de nous confier en lui sans réserve. Combien souvent, quand nous cherchons anxieusement la guérison, nous sommes maintenus sur le qui-vive par un cœur rempli d'amour de nous-mêmes. Nous oublions Dieu et la leçon qu'il cherche à nous apprendre. Car si les enfants de Dieu étaient exempts de cet amour d'eux-mêmes, rechercheraient-ils la guérison avec une telle avidité? L'intention que Dieu entend de réaliser, c'est que ses enfants sachent qu'un corps sain et fort n'est pas destiné à notre satisfaction personnelle et ne doit pas être utilisé en harmonie avec nos propres désirs, mais appartenir entièrement à Dieu. L'esprit de guérison est un esprit de sainteté. Ce qui nous manque, ce n'est pas la guérison, c'est la sainteté. Ce dont nous avons besoin d'être délivrés, ce n'est pas de la maladie uniquement, mais c'est du moi, de mon ego, moi. Quand un enfant de Dieu s'est confié dans le Père avec simplicité de cœur, il remarquera que sa foi est devenue plus forte. Il est entré dans une relation nouvelle avec Dieu. Il commence à vivre par cette vie à laquelle il ne croyait pas auparavant. Il confie à son Père Céleste son corps, aussi bien que son esprit et son âme. Il découvre que la volonté de Dieu est de manifester la puissance du Seigneur Jésus et l'amour du Père. Il est conduit à manifester sa foi pour vérifier que le Seigneur rachète le corps aussi bien que l'esprit et l'âme. Et c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Saint Matthieu chapitre 6, verset 25. Le Seigneur prendra soin de tout ce que nous lui confions. Nous devons, c'est parfaitement vrai, faire preuve de foi et dépendre de Dieu comme l'a sans doute fait Timothée. Mais en même temps, nous devons nous garder des extrêmes. Si notre corps est faible, nous devons accepter d'être conduits par le Seigneur à prendre quelques aliments spécialement nourrissants. En ayant recours à une telle nourriture sous la direction du Seigneur, notre corps sera fortifié. Jusqu'à sa pleine rédemption, nous continuons à être des humains, nous possédons un corps physique et nous devons être attentifs à ses besoins naturels. L'usage de tels aliments n'est pas en contradiction avec la foi, mais les croyants doivent prendre garde de ne pas se contenter de connaître simplement la valeur de tel ou tel aliment. L'essentiel, c'est l'acte positif de foi en Dieu. Certains chrétiens sont tombés dans les extrêmes parce que la maladie a eu tant de succès pour transformer leur vie. Ils se mettent à apprécier la maladie plus que la santé. Ils la regardent comme une enzyme de la croissance spirituelle. Ils n'aspirent plus à la guérison, mais manifestent une acceptation contre nature de la maladie qui les a frappés. Ils prétendent que s'ils étaient destinés à la santé, Dieu interviendrait lui-même et les guérirait. D'après leurs calculs, on a moins de peine à être pieux, donc être zélé et plein d'amour pour le Seigneur, dans la maladie que dans la santé. On est plus près de Dieu dans l'inaction et la souffrance que dans l'activité, et que plutôt que de courir ça et là, il est hautement préférable d'être couché dans son lit. Il y en a même qui refusent qu'on prie pour eux pour la guérison, parce qu'ils ont peur de perdre leur invalidité, qui est une somme d'argent qui tombe régulièrement tous les mois, et s'ils la perdaient, eh bien, ils croient qu'ils seraient dans une grande détresse. Aussi n'ont-ils aucun désir de rechercher la guérison divine. Comment pouvons-nous les persuader que la santé est préférable à la maladie? Nous reconnaissons que de nombreux croyants, au cours de leur maladie, se détournent du mal et se trouvent engagés dans une expérience plus profonde. Et nous admettons aussi qu'un nombre appréciable d'invalides et d'infirmes possèdent une piété et des expériences spirituelles supérieures à la moyenne, mais nous devons confesser d'autre part que de nombreux chrétiens ne sont pas au clair sur certains points. Le malade peut être un saint, mais cette sainteté a quelque chose qui n'est pas très naturel. Une fois rétabli et de nouveau libre de choisir, alors là, qui sait s'il ne retournera pas au monde et à lui-même? Il est saint tant qu'il est malade. S'il retrouve la santé, il devient un homme du monde. Donc, dans ce cas, le Seigneur doit prolonger sa maladie pour le maintenir saint. Sa sainteté gravite donc autour de sa maladie uniquement. Comprenons bien que la vie avec le Seigneur n'est nullement une exclusivité de la maladie. Ne nous imaginons jamais que, à moins d'être sous le joug de la maladie, on n'est pas en mesure de glorifier Dieu dans les devoirs de chaque jour. Bien au contraire, on doit pouvoir manifester la vie de Dieu dans une marche journalière toute ordinaire. Pouvoir endurer la souffrance, c'est bien, mais ne vaut-il pas mieux pouvoir obéir à Dieu quand on est plein de force pour le servir? Le Seigneur Jésus n'a jamais dépeint la maladie comme une bénédiction que ses disciples devaient supporter jusqu'à la mort. Il n'a jamais donné à entendre qu'elle était une expression de l'amour du Père. Il appelle ses disciples à se charger de leur croix, mais il ne permet pas aux malades de rester malades longtemps. Il dit aux siens qu'ils devront souffrir pour lui, mais il ne leur dit jamais qu'ils devront être malades pour lui pendant toute la durée de leur vie. Le Seigneur prédit que nous aurons des tribulations dans le monde, mais il ne regarde pas la maladie comme une tribulation. De plus, chaque fois qu'il a été mis en contact avec une personne malade, il l'a guérie et il déclare que la maladie, elle vient du péché et du diable. Nous devons donc faire une différence entre le péché et la maladie. Le malheur atteint souvent le juste. Ça a noté le psalmiste, le roi David. Mais le Seigneur l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Psaume, chapitre 34, versets 20 et 21. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? C'est ce que demande le frère de Jésus, Saint Jacques. Alors, Jacques dit, qu'il prie afin d'obtenir la grâce et la force. Mais là, continue notre cher apôtre, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle également les anciens de l'Église afin d'être guéri? Jacques, chapitre 5, versets 13 et 14. 1 Corinthiens, chapitre 11, versets 30 à 32, expose très bien, avec beaucoup d'à-propos, la relation des croyants avec la maladie. Je vous conseille de lire cela attentivement. Revenons maintenant à l'enseignement positif de la Bible concernant notre corps. Il y a un verset de l'Écriture sainte qui peut complètement détruire des fausses conceptions. Et oui, c'est la troisième épître de Saint Jean, verset 2. Là, il est dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Voilà donc une prière, chers amis, de l'apôtre Jean, qui lui a été inspirée par le Saint-Esprit. Elle exprime donc la pensée éternelle de Dieu en ce qui concerne le corps du chrétien. Il n'est pas dans l'intention de Dieu que ses enfants soient malades toute leur vie et incapables de le servir activement. Il souhaite les voir en bonne santé corporelle, comme c'est le cas pour leur âme. Nous concluons donc qu'aucun doute n'est possible. Une longue maladie n'est pas la volonté de Dieu. Il peut nous mettre temporairement sous discipline par une maladie, mais il ne trouve aucun plaisir à voir une maladie se prolonger. La parole de Saint Paul dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23 confirme aussi qu'une maladie qui se prolonge plus que à l'ordinaire n'est pas dans la volonté de Dieu. Comme sont l'esprit et l'âme, ainsi doit être le corps. Je répète, comme sont notre esprit et notre âme, ainsi doit aussi être notre corps. Il ne suffit donc pas à Dieu de voir notre esprit et notre âme irrépréhensibles alors que notre corps demeure faible, malade et ravagé par une terrible souffrance. Son objectif est de sauver l'homme tout entier et pas simplement une partie de sa personne. Je répète, l'objectif de notre Sauveur et Seigneur, c'est de sauver l'homme. Et quand on parle de l'homme dans la Bible, ça veut dire la femme. Elle est inclue. Vous l'avez bien compris, je l'espère. Donc, son objectif est de sauver l'homme et la femme tout entier et pas simplement une partie de sa personne. L'œuvre du Seigneur Jésus révèle également, elle révèle également la volonté de Dieu concernant la maladie, parce que il n'a rien fait d'autre que la volonté de Dieu. Dans la guérison du lépreux, il nous dévoile spécialement le cœur du Père envers le malade. Le lépreux implore: « Ô Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Voilà un homme qui frappe à la bonne porte, qui frappe à la porte du ciel pour savoir si c'est la volonté de Dieu de le guérir. Le Seigneur étend sa main, le touche et dit « Oui, je le veux », selon la version Darby. « Oui, je le veux, sois pur !» Saint Matthieu, chapitre 8, versets 2 et 3. La guérison représente souvent la pensée de Dieu. Celui qui croit que Dieu guérit à contre-cœur ne connaît pas sa volonté. Le ministère terrestre du Seigneur Jésus comportait la guérison de tous les malades. Saint Matthieu chapitre 8 verset 16. Comment pouvons-nous prétendre arbitrairement que maintenant le Seigneur a changé d'attitude. Chers amis, avant de terminer, si nous étions au clair sur la source de la maladie, nous serions doublement persuadés de chercher la guérison. Car tous ceux qui étaient malades étaient sous l'emprise du diable. Actes chapitre 10, verset 38. Donc, le Seigneur Jésus décrit la femme qui était courbée et ne pouvait aucunement se redresser comme étant liée par Satan. Saint Luc chapitre 13, verset 16. Lorsque il guérit la belle-mère de Pierre, l'apôtre Pierre, il menace la fièvre. Lisez Saint Luc chapitre 4, verset 39. De la même manière qu'il menace les démons, versets 31 et à 41, toujours de Saint Luc, en lisant le livre de Job, par exemple, nous apprenons que c'était le diable qui était la cause de sa maladie, chapitre 1 et chapitre 2 de Job. Mais c'est Dieu qui l'a guéri, chapitre 42. Les chardes qui, on peut dire, qui harcelaient et qui affaiblissaient saint Paul, c'était un ange de Satan. Lisez 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 7. Celui qui le fortifiait, au contraire, c'était Dieu. Celui qui a la puissance de la mort, c'est toujours le diable. Hébreux chapitre 2, verset 14. Nous savons que la maladie mûrit dans la mort, car elle est un des aspects de la mort. Comme Satan a la puissance de la mort, il a aussi la puissance de la maladie, car la mort est le dernier échelon de la maladie. Pour terminer, pourquoi Dieu n'ôte-t-il pas notre infirmité lorsque elle n'est plus nécessaire? Voilà une question posée par bien des chrétiens. Fixons donc notre attention sur le principe qui régit les voies de Dieu envers nous. Ce principe est toujours qu'il te soit fait selon ta foi. Saint Matthieu, chapitre 8, verset 13. Souvent Dieu désire le bien de ses enfants, mais il est obligé de laisser subsister la maladie à cause de leur incrédulité ou des lacunes de leur vie de prière. Si les enfants de Dieu consentent à la maladie, que dis-je? S'ils lui font bon accueil, comme si elle devait les délivrer du monde et les sanctifier, alors le Seigneur ne peut rien faire d'autre que de leur accorder ce qu'ils demandent. Dieu traite souvent les siens d'après ce qu'ils sont capables de recevoir. Ce serait peut-être une grande joie pour lui de les guérir, mais parce que la prière de la foi est absente, ce précieux don n'est pas la part, on peut dire, n'est pas la part de tous et pour tous. Sommes-nous donc plus sages que Dieu, chers amis? Devons-nous aller plus loin que ce que la Sainte Bible révèle? Bien que la chambre de malade puisse parfois être comme un sanctuaire où l'homme intérieur est profondément travaillé, néanmoins la maladie n'est ni l'ordre voulu par Dieu, ni ce qu'il a de meilleur à nous offrir. Si nous voulons céder à notre fantaisie sentimentale et ignorer la volonté révélée de Dieu, il ne peut que nous accorder ce que nous désirons. Que l'enfant de Dieu dise pieusement « Je me place entre les mains de Dieu pour la guérison ou pour la maladie. Je laisse Dieu faire ce qu'il veut. » Mais ce sont là habituellement des gens qui prennent des remèdes en même temps. Est-ce là remettre tout à Dieu ? Je vous le demande, n'y a-t-il pas là un peu d'hypocrisie ? Est-ce pas un peu tordu ? Quelle contradiction dans une telle vie ! Leur soumission n'est que un symptôme de léthargie spirituelle. Dans leur cœur, ces personnes se réjouissent de guérir, mais ce n'est pas un simple désir qui incitera Dieu à faire quelque chose. Elles ont accepté la maladie passivement depuis tellement longtemps qu'elles ont simplement succombé devant elle. Elles n'ont même plus le peu de courage qu'il leur faudrait pour chercher la liberté, la guérison. Ce qui pourrait leur arriver de mieux, c'est que d'autres personnes fassent preuve de foi en leur faveur, et cela existe, ou que Dieu leur accorde la foi qui gagnerait la partie. Cependant, la foi que Dieu pourrait leur donner ne leur sera pas accordée si leur volonté n'entre pas en action pour résister au diable et s'attacher au Seigneur Jésus sans défaillance. Beaucoup sont infirmes, non par nécessité, mais par manque de force pour s'emparer de la promesse divine. Il importe de bien saisir ceci, c'est que la bénédiction spirituelle que nous recevons dans notre guérison est de beaucoup supérieure à celle que nous recevons dans la maladie. Si nous, nous reposons sur Dieu et de son Fils bien-aimé Jésus-Christ pour notre guérison, alors naturellement, une fois rétablis, nous continuerons à marcher dans la sainteté afin de préserver notre santé. En nous rendant la santé, le Seigneur prend possession de notre corps. Il y a une joie ineffable à nouer avec Dieu une relation nouvelle et à faire avec lui une expérience plus avancée, non pas à cause de la guérison d'une maladie, mais à cause d'un nouveau contact de vie. Dans une circonstance comme celle-là, les chrétiens glorifient le Seigneur beaucoup plus que dans leur maladie. Les enfants de Dieu devraient donc prendre possession et position et rechercher activement la guérison. Écoutez d'abord ce que Dieu a à leur dire par la maladie. Ensuite, nous devons nous conformer avec simplicité de cœur à ce qui leur a été révélé. En outre, surtout, il faut confier votre corps au Seigneur tout à nouveau. S'il y a près de vous des anciens d'église qui peuvent vous oindre d'huile, un diacre, un prêtre, eh bien, lisez encore une fois Saint Jacques, chapitre 5, versets 14 et 15. Il est dit alors, appelez-les et suivez les injonctions des saintes écritures. Saint Jacques 5, versets 14 et 15. Ou autrement, exprimez tranquillement, exprimez votre foi tranquillement en vous comparant de la promesse de Dieu et de vous en emparer tout à fait, vous en emparer avec tout ce que ces promesses consistent et concernent. Et relisez Exode chapitre 15, verset 26. Croyez-moi, Dieu nous viendra en aide et nous guérira. Il ne nous laissera pas sur le bord du chemin en train de mourir. Amen. Chers amis, nous allons maintenant, si vous le voulez bien, terminer par une courte prière. Il n'y a pas besoin que ce soit quelque chose d'énorme. Le Seigneur nous entend, il nous comprend, il nous aime, il vous aime. Prions. Mon Père céleste, toi qui es juste et miséricordieux, nous te prions au nom de ton Saint-Fils Jésus-Christ. Oui, au nom de ton Fils bien-aimé, je te prie donc de m'accorder ton aide. Et chaque personne peut répéter cette prière pour elle-même. Je le recommence et vous pouvez la répéter tranquillement après moi. Père céleste, toi qui es juste et miséricordieux, si vous êtes catholique, vous pouvez dire Père céleste, vous qui êtes juste et miséricordieux, au nom de Christ, ton Fils bien-aimé, votre Fils bien-aimé, je te prie, je vous prie de m'accorder ton aide, de m'accorder votre aide. Je continue, et pour les catholiques, ils mettront vous. Nous allons dire tu, c'est permis. Vous pouvez le constater dans tous les évangiles. Seigneur, nous sommes tes faibles enfants et nous ne pouvons rien faire sans toi. Cependant, nous connaissons ton infinie miséricorde et nous savons que nous ne prions jamais en vain. Au nom de Jésus-Christ, exerce ta miséricorde sur notre malheur, sur nos souffrances et sur nos faiblesses. Accorde la guérison à la personne que chacun va nommer son nom avec précision, le lieu où elle habite, où il habite. Accorde donc la guérison à X. C'est de tout mon cœur que je te demande, je te prie et requiert ton aide, Père de miséricorde et de justice. Guéris cette personne par ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Maintenant, cette personne qui promet que cette nouvelle vie de santé, cette nouvelle vie sera uniquement pour mieux te servir, et non pas pour mieux retourner dans le monde. Amen. Amen. Et chers amis, merci de tout cœur pour votre gentillesse, pour votre intérêt que vous portez à ces études. Et je vous demande simplement de continuer de porter votre foi, votre espérance uniquement dans le Seigneur Jésus-Christ. À bientôt à nouveau, Dieu voulant, à demain matin pour la suite de ces études. Au revoir, très chers amis.